Eh bien voilà, bonjour Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
Bonjour.
Cette histoire d'archives, on va continuer puisque le mois dernier on n'a pas eu le temps de faire bilan et perspective pour cette année.
On est en train dans le service d'essayer de regrouper. Nous préparons chaque année donc un rapport annuel que nous diffusons ensuite auprès de notre administration. On avait donc j'avais donné quelques chiffres. Donc là maintenant ces chiffres sont définitifs. Hein, donc un petit mot rapidement là-dessus avant d'aller vers les perspectives évidemment le programme de l'année à venir. On a eu une année finalement d'un point de vue archivistique une année assez moyenne puisque on a détruit dans le département un peu plus d'un kilomètre, un kilomètre un exactement d'archives publiques, puisque c'est l'objet même de notre travail. Nous avons aussi rentré dans le service environ 200 mètres linéaires d'archives publiques. Et à ces mètres, il faut ajouter une dizaine de mètres d'archives privées, puisque nous recevons aussi des dons, nous achetons aussi des archives. Là, on vient de faire un achat il y a quelques jours et nous sommes en train d'attendre avec impatience la livraison de photographies, de tirages photographiques de Saint-Marcel-et-Céric, car nous avons aux archives départementales une très très belle collection de ce cisterronnais du 19e siècle qui a pratiqué, on va dire, à grande échelle la photographie et qui nous a donc permis qui a constitué en fait une collection absolument extraordinaire sur le département et sur la région même de clichés photographiques qui remontent à 1860. Donc là on attend ces clichés qu'on a achetés auprès d'un professionnel hein, donc qui avait lui-même acheté ce fonds auprès d'un collectionneur. Donc on ne connaît pas bien encore les origines de ce fonds, comment ce fonds se retrouve dans l'Est de la France, hein, cette partie de fonds. Donc on continue toujours effectivement à rechercher ces archives privées, en particulier celles liées à la Grande Guerre, puisque nous sommes encore dans notre projet, et je vais en parler tout à l'heure, puisque c'est 2018, sera le point d'orgue, évidemment, du projet du centenaire que nous menons depuis 4 ans. Voilà, donc on, au niveau des chiffres, hein, au niveau de l'activité archivistique proprement dite, il n'y a pas de grandes différences par rapport aux années précédentes. En revanche, je l'avais déjà dit, on a constaté une très forte progression de notre fréquentation. Nous avons quand même proposé quasiment 19 conférences ou communications diverses, plus 9 lecteurs d'archives, etc. Enfin, oui, donc on avait un programme très dense qui a permis d'ailleurs de toucher quasiment 1700 adultes. Et puis, surtout, nous avons donc un service éducatif et culturel qui a une très, très importante activité, puisque pour la première fois, nous avons dépassé les 2000 élèves reçus cette année. On était à 2200 exactement, et ce qui représentait 5000 heures élèves. Hein, quand on cumule, c'est important parce qu'on part toujours en chiffres, vous voyez. Sauf qu'une classe peut passer très rapidement, vous voyez, dans une exposition. Donc l'heure élève est importante, puisque c'est l'heure effective, en fait. Et donc 5000 heures, c'est quasiment trois fois ce qu'on avait fait
les années précédentes.
Précédentes, enfin, c'est vraiment c'est considérable. Donc voilà. Et on a déjà un planning très chargé pour l'année. Je crois que jusqu'en avril, on a déjà plus de 700 personnes prévues, inscrites, hein, donc enfin, élèves, hein, inscrites dans nos dans nos ateliers, dans nos visites, etc. Donc on est très très satisfait parce qu'on sait évidemment que notre avenir, enfin une partie de notre avenir, passe évidemment par l'action culturelle.
Et ce service éducatif et culturel, donc vous dites que c'est en nette évolution, ça fait depuis le début que vous recevez des écoles.
Alors en fait, c'est... Alors, si on regarde un peu l'histoire, en fait, ce sont les services éducatifs, dans les services culturels, hein, ce sont les archives nationales qui ont créé, dans les années 50, le premier service éducatif. Donc, en fait, les archives ont... alors, c'est, évidemment, on voit très bien pour quelles raisons. Hein, c'était une façon de faire de l'histoire à partir des documents. Hein, voilà. Au départ, c'est tout simplement ça. Et c'est d'ailleurs toujours ça. Donc après, effectivement, les musées ont récupéré, et les autres structures culturelles ont récupéré ce système donc, de services éducatifs. Mais effectivement, et dans les services d'archives départementales, pendant très très longtemps, l'action culturelle était, on va dire, un peu réduite. Et elle se caractérisait par justement cette action éducative en direction donc des établissements scolaires. Ça, c'est vraiment une constante. La différence... qu'il y a donc entre hier et aujourd'hui, c'est que l'ampleur n'est plus la même. C'est-à-dire que grâce aussi au fait qu'on ait des enseignants du secondaire, en l'occurrence à Digne, qui soient donc mis à disposition du service d'archives pendant... Alors nous, c'est une journée, hein, c'est le vendredi, fait aussi que ça permet non seulement... d'avoir un pied, on va dire, dans l'établissement scolaire, mais aussi d'avoir un enseignant qui est capable d'adapter, évidemment, l'action, hein, c'est-à-dire, en fait, d'être capable de mettre en relation le document et l'élève en fonction d'un programme et en fonction d'un niveau. Vous voyez, donc, tout ça est très important, ce qui fait que, évidemment, comme aujourd'hui, on demande... au service culturel d'être de plus en plus présent dans le domaine éducatif, évidemment, pour nous, c'est pas béni, en fait, hein, puisque on peut, comme ça, effectivement, développer cette activité. Moi-même, étant un ancien enseignant, évidemment, je suis très attentif, et les animatrices, hein, donc elles sont deux, évidemment... développe de plus en plus, amène même de nouvelles idées. On a des projets pour les années à venir, enfin pour l'année même déjà qui s'ouvre, pour justement essayer d'augmenter encore cette fréquentation et d'améliorer évidemment toujours la qualité. Le but n'est pas de faire du nombre, hein, vous l'aurez compris, c'est évidemment d'avoir aussi une proposition qui soit intéressante, car on sait très bien que si notre objectif c'était de faire du nombre, les gens ne reviendraient pas. Hein, les enseignants diraient que c'est pas très intéressant, donc on a intérêt évidemment à proposer des prestations de qualité. Voilà. Donc ça, on s'y efforce. Et donc 2200. Alors pour vous donner une idée, hein, notre meilleur chiffre, c'était 1350. Mmh. On pensait à ce... C'était il y a 3 ans, 4 ans. On pensait qu'on aurait beaucoup de mal à égaler ce résultat et qu'on aurait beaucoup de mal à le dépasser. Et puis l'année dernière, on avait déjà dépassé ce nombre. On s'était dit, ben là, on n'arrivera pas. On est déjà vraiment très très haut. Et puis finalement, vous voyez, on arrive encore à progresser, car on est quand même un service ouvert tout le temps. Alors certes, le temps scolaire, il n'est que de 36 semaines, hein, mais on a encore des marges pour de progression. Alors après, il faut aussi ne pas tomber dans une saturation où les responsables du service seraient un peu pris à la gorge. Parce qu'il y a un travail, évidemment, de réception, d'explication, mm-hmm. etc., mais il y a aussi un travail de préparation, évidemment. Donc, et le but, c'est d'amener des nouveautés.
C'est pas que deux animatrices pour recevoir tous ces élèves.
Bien sûr.
Si, que deux animatrices.
Mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Dans certains cas, on fait des journées des fois spéciales, où là, on mobilise un peu plus d'agents. Mais en fait, non, elles sont que deux, en fait. Hein, donc, avec un enseignant qui travaille le vendredi. Voilà. Donc, mm-hmm. en fait, leur travail, c'est de préparer des ateliers, de préparer des publications, donc des petits dossiers pédagogiques. Hein. On a fait beaucoup autour de la guerre. On est en train d'en préparer un autour de mai 68. Voilà, donc de préparer tous ces petits documents. C'est très classique, ça, hein, de documents d'archives, une sélection. Voilà, donc ça, c'est en général, on en fait 3 à 4 par an. Et puis, donc, de préparer donc des ateliers. souvent en lien évidemment avec les publications pédagogiques. Hein, donc là, on a fait beaucoup d'ateliers sur la guerre, la Première Guerre mondiale, et puis donc de recevoir ou d'aller, hein, parce qu'il y a les deux, soit on reçoit aux archives départementales, soit on se rend sur place pour faire des actions. On fait par exemple, vous savez, un atelier qui marche ça très bien, qui est comparer une image ancienne d'un lieu avec une image actuelle pour voir les évolutions. Et donc on est en train de préparer ça, on l'a fait sur Digne, et de plus en plus on a des demandes des écoles élémentaires dans les bourgs et les villages où ils disent mais c'est bien Digne, mais on voudrait bien que vous fassiez la même chose chez nous, quoi. Donc on est en train de préparer tous ces ateliers. De toute façon, à chaque fois qu'elles se rendent sur place, elles font des photographies, justement, en prévision. On photographie le monument mort, mais enfin, on fait des choses un peu obligatoires. Tout ce qui peut, un jour, être utile à faire évoluer les ateliers. Et puis, surtout, à les ancrer dans la réalité des élèves. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire, d'expliquer à des enfants de Valensole le monument mort de Barcelonnette. Vous voyez, enfin, hein, il y a une logique territoriale qui est importante. Voilà. Donc, on essaie d'adapter au mieux, hein, évidemment, ce qui prend beaucoup de temps, puisque on pourrait avoir, oui, une fois notre atelier fait, le proposer, le décliner, etc. Là, on essaie justement de le décliner en tenant compte des circonstances locales, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc un service éducatif. Le deuxième aspect, c'est la fréquentation de notre salle de lecture. Alors je vous disais qu'elle baissait, hein, donc elle continue à baisser en termes de nombre d'inscrits. On est au-delà de 500. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la salle de lecture n'a jamais été aussi fréquentée que depuis 5 ans. Parce que ces 500 personnes sont venues plus souvent que les personnes de l'année dernière, qui étaient 550, mais qui ont fait moins, ce qu'on appelle des séances de travail, moins de séances de travail. Donc là, on a une progression qui est très forte en termes de séances de travail. C'est-à-dire que les gens sont moins nombreux à venir, mais quand ils viennent plusieurs fois, et ils demandent beaucoup plus de documents. Donc ce qui veut donc dire que notre activité augmente. Vous voyez, concrètement, hein, le magasinier, lui, qui vit le prêt document, eh bien, il voit passe entre ses mains beaucoup plus de documents que les années précédentes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a toujours une petite inquiétude, hein, compte tenu des mises en ligne d'archives. On sait que ces mises en ligne ont évidemment été un facteur déterminant dans la baisse de la fréquentation de nos salles de lecture. On a intérêt, nous, que nos salles de lecture continuent à être fréquentées, car quelqu'un qui vient dans une salle de lecture, d'abord, on a un service où on doit avoir accès aux archives, c'est la règle, hein. Et puis quelqu'un qui vient en salle de lecture viendra éventuellement aux conférences, voyez, regarde nos expositions, etc. Donc vous voyez, il y a un lien, évidemment, qui est évident entre la fréquentation de la simple salle de lecture et la suite. Voilà.
Donc il y a une inscription à faire auprès,
oui,
de,
voilà,
des
donc,
services.
Oui, voilà. Donc en fait, le principe est très simple. Quand on vient aux archives départementales, la seule condition, c'est de s'inscrire. Donc d'amener une pièce d'identité, qu'on puisse inscrire la personne. Et puis après, la fréquentation est évidemment gratuite.
Mais l'inscription est payante ?
Pas du tout, non,
pas
non,
du tout.
Non, c'est vraiment un service gratuit. Hein, mm-hmm. Ça fait partie des fondamentaux, on va dire, de la République, hein, où chaque citoyen peut venir consulter les documents. S'ils sont consultables, hein, comme je rappelle, à chaque fois, il y a des règles de communicabilité. Tout n'est pas consultable tout de suite. Hein, on protège quand même certains intérêts, hein, les intérêts évidemment médicaux, les intérêts de l'administration aussi. Hein, il y a des choses qui doivent rester confidentielles un certain temps. La vie privée, on ne peut pas évidemment divulguer des faits qui seraient trop récents. Voilà, donc.
À moins qu'il y ait une enquête, c'est ça
Alors, à moins qu'il y ait un système de dérogation. Il y a un système de dérogation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez demander pour une raison que vous devez justifier, puisque c'est dérogatoire, hein, dérogatoire par rapport à la loi. Donc, vous pouvez demander à consulter des documents qui sont en fait protégés justement par ces règles de communicabilité, c'est-à-dire des documents qui ne sont en principe pas communicables, pour plusieurs raisons. Alors, en général, la principale, c'est évidemment la recherche historique. Quelqu'un qui fait des études sur un sujet ne peut pas, comment dire, ne pourrait pas travailler si on lui disait mais non, votre document n'est pas consultable avant un siècle, vous voyez, donc ça sera un peu difficile. Donc voilà, pour les gens qui travaillent sur des périodes un peu récentes, ça c'est là vraiment la principale raison. Après, il y a des raisons qui sont liées à des raisons personnelles, hein, tout simplement. Des personnes qui recherchent des informations sur leur vie, la vie de leurs parents, etc. Donc là, il y a aussi un secret hein, qui existe, qui peut être levé si la raison en est justifiée. Alors, après, la procédure est assez simple. Le directeur des archives donne un avis. Ensuite, c'est le producteur des archives qui va donner un avis. Alors, si c'est, par exemple, c'est dans le domaine judiciaire, c'est le procureur de la République qui donne un avis. Puis ensuite, cet avis est transmis par le directeur des archives départementales au ministère, qui, lui, en fait, décide par rapport aux avis qui ont été donnés et par rapport surtout à ce qui se fait dans les autres départements. Car, évidemment, on ne sait pas quelle est la règle générale, puisque c'est dérogatoire, hein, toujours, et donc qui tient compte, évidemment, des avis qui ont été formulés, mais aussi de la pratique dans la matière. Et en général... les refus sont rares, en fait. La plupart du temps, il est possible donc de consulter ces documents, quand on a les bonnes raisons, évidemment, la seule condition générale, c'est de garder un caractère confidentiel, de ne pas citer les noms, et surtout de ne pas reproduire les documents. Car l'une des craintes hein, pour aujourd'hui, avec la facilité qu'on a
à scanner,
numériser, à faire une photographie, évidemment, c'est que le document soit reproduit et ensuite diffusé. Et là, on ne maîtrise plus rien. Quoi. Mmh. Voilà, donc la personne s'engage hein, vraiment. Hein, quand elle reçoit la lettre donc, du ministère, il est bien indiqué, le plus souvent, hein, c'est dans 95% des cas, qu'il est impossible de dupliquer les documents pour protéger, évidemment, les intérêts de ceux qui sont... C'est-à-dire que c'est vraiment une autorisation personnelle, en fait. Hein, voilà. Et le but, c'est pas qu'on puisse partager. Il faut que la personne qui fait la demande et qui ensuite travaille sur le sujet garde pour elle les informations qu'elle a eues le droit, grâce à cette dérogation, de consulter. Voilà, ça, c'est une règle fondamentale. Voilà. Cela étant, les demandes sont assez rares. L'année dernière, on n'en a eu qu'une, vous voyez. Cette année, on en a déjà deux demandées. C'est en général, là, en l'occurrence, c'était pour des affaires de la guerre, hein, donc des documents qui sont effectivement encore protégés parce que pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y a une dérogation générale, c'est-à-dire qu'en fait, on peut consulter tous les documents qui ont trait à la guerre directement, hein, donc y compris les procès hein, qui ont été tenus des collaborateurs après la guerre. Mais en revanche, tout ce qui est le droit commun, lui, continue à être protégé hein, par la règle, en l'occurrence, des 75 ans. Donc, par exemple, une affaire, une attaque à main armée, vous voyez, qui serait passée en 1944, n'est pas considérée. Le problème, hein, c'est que souvent, les deux sont liés, en fait. C'est-à-dire qu'il est difficile de savoir si on a affaire à une affaire de droit commun ou une affaire de résistance, par exemple. Vous voyez. Voilà. Donc, du coup, des fois, il y a une ambiguïté sur le document lui-même, puisque on peut masquer, vous voyez, une affaire de résistance par un droit commun, ou inversement. Hein, on la connaît, hein, au moment de l'épuration, des affaires qui étaient des pures affaires de droit commun et qui ont été masquées par des affaires de résistance, pour les justifier, en fait. Voilà. Donc, là, c'est exactement ce cas-là, d'ailleurs. C'est une affaire de droit commun où on utilise en fait l'argument de la résistance pour sortir du droit commun, voyez, en disant que c'est quand même qu'une affaire de règlement de compte. Voilà, donc ça c'est la demande qu'on a eue l'année dernière sur le sujet. On a aussi des demandes de personnes qui souhaitent consulter des procès en fait, hein, des pièces de procès pour des raisons personnelles vraiment, hein, pour des affaires de famille. Et là c'est plus difficile quand même parce qu'on protège quand même les intérêts des uns et des autres, et on évite de dire... Enfin, la dérogation n'est pas obligatoire. Voilà. Donc c'est vraiment... Oui, c'est une question vraiment d'appréciation. C'est toujours du cas par cas. Quoi. C'est vraiment... l'historien, il n'y a pas de problème. Quand on est en dehors de l'histoire, quand ça peut être un élément, vous voyez, utilisé pour d'autres raisons, c'est difficile. On a aussi des demandes d'avocats, hein, pour des questions de tutelle, etc., des tutelles où il y a des conflits familiaux après, oui, etc., où là, évidemment, les dérogations sont accordées, puisque là, on est dans le droit, la défense de quelqu'un, vous voyez, la défense des intérêts légitimes de quelqu'un. Et donc, dans ce cas-là, en principe, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a aussi ce cas-là. Il ne faut pas penser, vous voyez, que les archives, c'est un matériau mort, en fait. Hein. Il est là. Alors c'est vrai qu'on a une masse énorme, hein, 11 km, enfin un peu moins d'11 km, puisqu'on a faussé un peu le compte là-dessus, on a repris un peu nos chiffres à la baisse, mais c'est une matière qui est là, qui semble inerte, mais qui en réalité vit beaucoup. Elle vit justement grâce à l'action culturelle, à l'action pédagogique, mais aussi par la consultation. Il y a des documents qui sortent très souvent, qui sont très demandés, et puis aussi justement par des documents qui en principe ne devraient pas être consultables, enfin encore consultables, puisqu'un jour ils le seront évidemment, et qui sont quand même demandés. Vous voyez donc, c'est une matière vivante en fait, hein, voilà. C'est pas du tout, on imagine toujours, vous savez, un peu dans la vision patrimoniale, les choses sont là, sont posées, ce sont comme des grosses briques, vous voyez, nos boîtes seraient des briques, hein, des pierres, mais en fait, voilà. Donc il faut penser toujours que ça vit. Voilà, donc ça c'était pour l'année dernière en fait. Hein, donc maintenant on est évidemment, on regarde 2018 en se demandant ce qu'on va faire. Alors en fait on a déjà des idées, en réalité on a déjà des choses qui sont programmées depuis l'année dernière, hein, puisqu'on ne peut pas travailler au coup par coup. On a par exemple notre exposition de l'été, hein, notre exposition estivale qu'on fait chaque année à la cathédrale Saint-Jérôme, qui était l'année dernière donc sur les mosaïques du monastère de Ganagobi, hein, qui date du XIIe siècle. Cette année donc on est sur une thématique, on sort d'un établissement éclésiastique pour aller du côté de l'évêque. On sera sur, on va faire en fait un sujet autour ce qu'on appelle les visites pastorales. Donc la visite pastorale, c'est tout simplement l'évêque qui se déplace dans son diocèse, hein, dans les paroisses de son diocèse pour faire en fait un état. Alors c'est un état, je veux dire, spirituel, mais aussi un état matériel. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment pour voir si les âmes, hein, comme on disait, vont communier lors du temps pascal, puisque c'est le moment le plus important, hein, de la vie liturgique, l'année liturgique, ou aussi si le curé fait bien son travail, si les notables locaux considère qu'il fait bien son travail, donc il interroge aussi, hein, il interroge un peu tout le monde. Et puis, il voit aussi les conditions matérielles, c'est-à-dire les revenus, voir s'il n'y a pas des usurpations, si le presbytère est en bon état, si l'Église est elle-même en bon état, si elle respecte évidemment les règles de l'Église. Hein, et donc, la période que nous, on étudie, c'est 1683. Donc c'est la période où la réforme catholique bat son plein. Il y a encore le fait protestant, mais qui va disparaître avec la révocation de l'Édit de Nantes, hein, qui va suivre. Et donc, l'évêque, en l'occurrence, est très sensible à la question de la décence. Donc il fait couvrir des jambes un peu nues, il demande qu'on retire des tableaux, il demande qu'on change la porte du tabernacle, etc. Oui, enfin c'est très concret, hein, c'est fort intéressant parce que l'évêché de Digne est tout petit, hein, les évêchés étaient très petits à l'époque. Mais il fait toutes les paroisses, et donc on voit vraiment, on a une vision, vous voyez, en une année, de tout l'état général des paroisses, avec une sorte de, comment dire, c'est un peu stéréotypé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture, hein, chaque fois qu'il va à un endroit, il demande à peu près les mêmes choses, hein, il pose les mêmes questions, mais avec des variantes, hein, par exemple, on a quelquefois des protestants qui apparaissent, hein, les désordres aussi, voilà, donc, globalement, tout va bien, hein, voilà, l'évêque est assez content, enfin, du moins, son clergé est assez content, l'évêque est assez content de son clergé, en apparence, hein, je sais pas ce qu'il en est dans les faits, évidemment, hein, c'est ce qui est écrit, hein, donc, voilà, mais c'est à la fois vivant, vous voyez, vous imaginez l'évêque avec toute sa cour, hein, qui se promène en mulet, hein, parce qu'il a un mulet évidemment, pour se déplacer comme ça, il dort à tel endroit, le lendemain il repart pour aller à tel autre endroit, il fait des petits bonds comme ça, hein, il avance. De temps en temps, quand c'est un peu reculé, on voit un de ses émissaires, hein, donc un de ses officiers qui va partir faire le travail parce que c'est un petit peu en dehors de sa route et c'est sans doute à ses yeux moins important, vous voyez. Donc, voilà. Donc ça, c'est 1683 et ça, c'est pour l'exposition estivale Saint-Jérôme qui commence début juillet et qui se termine fin septembre. Alors, cette année, on va travailler aussi. Alors, le but, c'est de montrer, évidemment, ce diocèse en fait, hein, voir un petit peu dans quel état il est, ce qu'il y a, et puis c'est aussi de montrer des œuvres que lui voit, vous voyez, hein, c'est-à-dire que évidemment il décrit parce qu'il y a un inventaire, hein, vraiment, vous avez le nombre de chasubles, le poids de la cloche, hein, tout ça vraiment c'est très très concret, vous voyez, donc on essaie On essaie de retrouver, ce qui n'est pas facile, hein, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les choses ont beaucoup changé et que beaucoup d'objets qui étaient présents en 1683 n'existent plus en réalité. Il y en a très très peu. C'est vraiment difficile. On arrive à en trouver un ou deux, quelquefois par-ci par-là. Vous voyez, on va essayer donc de montrer ces objets pour dire voilà ce que l'évêque, quand il est passé en 1683, a pu voir et que voilà comment il le décrit. Vous voyez, alors c'est très sommaire. Hein, c'est vraiment. Mm-hmm. Mais enfin, il dit au moins ce qui n'est pas toujours le cas. Il dit au moins ce que représente le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu que nous, dans nos analyses de tableaux, on ne voyait pas la même chose. Voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu, vous voyez, une partie de cette culture du tableau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des tableaux qu'il voit, qu'il décrit. Ces tableaux disparaissent, mais ils ont été reproduits quasiment à l'identique, hein, donc avec les mêmes personnages, les mêmes saints, en l'occurrence, mm-hmm. hein, les mêmes thématiques. Au XIXe siècle, parce que justement le tableau devait être sans doute très très détérioré. On s'est dit on veut garder quand même ce tableau, enfin cette représentation, et donc on a des tableaux qui sont des copies d'une certaine manière, oui, évidemment réinterprétées, hein, de tableaux plus anciens. Donc on a aussi, on va essayer de montrer ça. On n'aura pas l'original, mais on aura celui qui a été fait, qui garde, et on voit, je vous dis, c'est vraiment intéressant, on voit des saints qui apparaissent. Dans le tableau qu'on ne connaissait pas parce qu'on l'avait mal lu, parce qu'on avait perdu la culture du tableau. Et c'est très très intéressant. Donc ça c'est, et parallèlement, donc on va travailler avec le service régional de l'inventaire qui va nous amener toute son expertise sur le commentaire, parce que ce sont des spécialistes, hein, vraiment, des objets liturgiques et de l'histoire de l'art aussi, d'ailleurs. On va travailler aussi avec le Géoparc, parce que... alors, c'est en projet, hein, pour le moment, c'est pas encore acté, mais on voudrait travailler avec le Géoparc parce que on souhaiterait utiliser ce que fait le Géoparc, c'est-à-dire c'est des petites... vous savez, avec un drone, ils font des vues aériennes de lieux, en fait, hein, et on voudrait évidemment reproduire quelques parties du parcours, parce qu'on ne peut pas tout faire le parcours, évidemment, hein, mais quelques parties du parcours pour que les personnes qui viennent à l'exposition voient concrètement les lieux, voient l'église, vous voyez, de l'extérieur, voient l'environnement, même s'il a beaucoup changé, évidemment, hein, mais permettent de recontextualiser un petit peu le parcours. Et puis, on travaille aussi donc toujours avec l'ancienne conservatrice départementale, hein, qui s'intéresse beaucoup aux objets religieux, avec le conservateur délégué des antiquités objets d'art. Vous voyez, c'est un travail collectif, hein, évidemment, autour de ce projet. Donc ça sera pour l'été. Notre grand projet de l'année, c'est évidemment le centenaire de 1914-1918, puisque c'est la fin. Ça fait 4 ans qu'on y travaille, ça fait 4 ans qu'on propose chaque année des expositions, des lectures d'archives, des publications, des ateliers, des visites, etc. Oui, donc, on a touché des milliers d'élèves, hein, autour de ce sujet-là. Donc là, on va faire deux choses. On va faire d'abord une journée qui est organisée, en fait, non pas par nous, mais par les services de l'inspection d'académie, qui agrège l'Office national des anciens combattants, la délégation militaire départementale, la préfecture, hein, qui joue le rôle de chef d'orchestre, et puis donc les archives départementales, autour d'un projet qui aura lieu en juin, où l'objectif, c'est à la différence de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de proposer quelque chose aux élèves, que ce soit les élèves qui nous proposent quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que l'animation d'une journée ou d'une demi-journée, on ne sait pas encore exactement, soit faite par des élèves et par des élèves de tous les niveaux, que ce soit des élèves, des collégiens, des écoliers, des lycéens, et qu'ils proposent donc un spectacle, en fait, hein, de leur composition, préparé par eux, un public qui soit évidemment un public scolaire. Voilà. Alors nous, on a une petite idée, évidemment, de ce qu'on va faire. On est des spécialistes de la lecture d'archives. Mm-hmm. Donc on voudrait organiser, avec un collège, une lecture d'archives qui soit faite par des élèves autour d'une correspondance qui est fort intéressante et fort émouvante, qui est celle d'Augustin Richaud, qui écrit à son épouse Marie, Alors, Augustin Richaud, c'était un poilu, hein, un simple poilu, un petit peu âgé quand il est mobilisé en 1914, mais qui s'était marié l'année précédente et qui a eu un enfant qui est né en juillet 1914, donc juste avant, hein, quelques jours avant la mobilisation. Richaud part à la guerre, il est dans un régiment d'infanterie coloniale, donc un régiment difficile, très exposé. Il meurt en 1917, hein, des suites de ses blessures. Et donc, pendant toute sa période de guerre, il écrit, on a plusieurs centaines de lettres, hein, il écrit des lettres ou des cartes postales plus ou moins longues à son épouse, avec une écriture un peu maladroite, vous voyez, quelques difficultés d'orthographe, une expression un peu limitée, mais beaucoup de sincérité, des éléments intéressants, et donc il écrit à son épouse pour raconter son histoire. Donc ça, c'est l'idée, c'est que les élèves choisissent parmi ces centaines de lettres quelques lettres à lire pour nous les proposer. C'est intéressant aussi parce que Richaud donc a eu un garçon, comme je le disais, qui est devenu chanoine, qui est devenu même un érudit, hein, un spécialiste d'histoire locale. Donc le fameux chanoine Richaud, que les gens qui s'intéressent à l'histoire connaissent bien, et qui est reparti sur les traces de ce père qu'il n'a pas connu, hein, puisqu'il avait 3 ans quand il est mort. Il est reparti sur les traces pour retrouver sa tombe, et on a une lettre qui est très, très émouvante, où il est dans un hôtel... Je crois que c'est dans la Somme. Il raconte à sa mère, hein, qu'il a trouvé papa. Vous voyez, c'est très très émouvant. Quoi. Il a trouvé la tombe parce qu'il est vraiment parti. Et donc pour lui, la quête est terminée. Et c'est lui qui avait repris toutes les lettres, qui les avait classées, rangées, mis dans une malle, une malle. En fait, ce qu'on appelle nous la valise bleue, parce que c'est vraiment une malle en bois bleu, hein, de couleur bleue, vraiment un bleu de la Première Guerre mondiale, hein, vraiment un bleu particulier. Et donc cette boîte avait été retrouvée par ceux qui avaient acheté la maison, hein, tout simplement. Et c'était retrouvé dans un grenier, comme ça, un peu par hasard. Et donc les gens qui avaient découvert cette valise ont eu la très bonne idée de nous l'amener, évidemment, aux archives départementales. Et donc, du coup, ça nous fait vraiment une base. C'est l'une des correspondances les plus complètes et les plus émouvantes, parce qu'on est à la fois la guerre, hein, donc évidemment, un combattant, mais aussi cette quête, ensuite, après la guerre, hein, de cette recherche du père qu'on n'a pas connu, qui renvoie quand même à toute une problématique de l'après-guerre qui est quand même très importante avec tous ces orphelins, parce que c'est un orphelin, évidemment. Mmh. Cette mère qui a des difficultés pour vivre, hein. C'était des cultivateurs, évidemment, il n'y a plus de mari. Et donc, comment travailler ? Donc, elle devient concierge du séminaire, vous voyez, le fils qui rentre au séminaire, qui devient prêtre, curé de paroisse, ensuite même enseignant au séminaire, vous voyez, c'est une histoire très, 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 très singulière, mais en même temps très significative de cet après-guerre où on a toutes ces petites gens, vous voyez, qui ont du mal à vivre et qui sont aidés par l'État, hein, puisqu'il y a des aides évidemment spécifiques, hein, pour les veuves de guerre et pour les orphelins, et qui permet d'avoir une éducation quand même. Voilà. Donc ça, c'est notre projet à nous, hein, notre partie de projet, mais évidemment, cette partie-là va s'inclure dans un projet beaucoup plus vaste, hein, où il y aura évidemment d'autres contributions qu'on ne connaît pas encore, hein, puisque tout c'est en train de s'écrire en ce moment, hein, mais c'est fort intéressant, et ça va être sans doute une très belle journée, une très belle après-midi, avec des centaines d'élèves dans le public, hein, pour justement... être un premier point d'orgue. Le deuxième point d'orgue, 1914-1918, c'est évidemment autour du 11 novembre. Nous avions prévu déjà de consacrer 2 jours, donc les jeudis et les vendredis, à des actions pédagogiques. Donc là, effectivement, ça ne mobilise pas que mes 2 animatrices du service éducatif. Hein. Ça mobilise évidemment d'autres agents des archives. Ça mobilise tellement les agents, d'ailleurs, qu'on ferme les archives, hein, pour pouvoir accueillir plusieurs classes. Alors, on a, en fait, pour le moment, ce projet se décline en 3 parties. Une première partie, en fait, on proposera des ateliers. Une deuxième partie, alors, des ateliers qui seront construits autour de nos archives de guerre, hein, qu'on montrera justement en juin pour le public hein, qui viendra aux archives départementales, puisque je rappelle, c'est une journée totalement inconnue du public. C'est la journée internationale des archives qui est, qui est en l'occurrence le samedi 9 juin. Et donc c'est autour de cette date nous, que nous allons tenter de proposer donc, ce fameux projet sur 14-18. Donc pour novembre, nous allons proposer donc, d'abord des ateliers. Mettre en valeur nos archives, celles qui sont rentrées lors de la grande collecte, celles que nous avons achetées, celles qu'on nous a données, des archives papier, des archives des images. On a beaucoup d'images, hein, beaucoup de clichés photographiques qu'on nous a donnés ou prêtés. Et puis, la deuxième chose sera l'intervention d'une historienne qui est une spécialiste de la guerre de 14-18, hein, Clémentine Vidal-Naquet, qui a travaillé, qui a publié maintenant, je crois, trois ouvrages scientifiques sur la guerre et qui s'intéresse particulièrement aux relations de couple, donc aux correspondances, justement, entre hommes et femmes. Donc, à partir de quelques correspondances, elle a fait un travail universitaire, hein, scientifique. Et ce travail a été repris par une compagnie qui s'appelle Green Box, qui est une compagnie parisienne, une petite compagnie parisienne de théâtre, qui a monté un spectacle. Donc notre idée, et là on est à peu près sûr que ça se fera, puisqu'on on a bien avancé dans la préparation de ce projet, donc on aura auprès d'élèves l'intervention de cette historienne, Clémentine Vidal-Naquet, et puis le spectacle hein, qui sera proposé le jeudi et le vendredi aux élèves, comme l'intervention d'ailleurs, hein, les élèves, auront, quel que soit le jour où ils viennent, ils auront droit à la même chose. Et puis nous ferons aussi le soir, proposerons pour le public adulte justement ce spectacle et une conférence de Madame Vidal-Naquet. Voilà, donc ça,
donc
c'est
ça,
notre projet.
C'est autour du 11 novembre.
Oui, c'est juste avant. D'accord. C'est le jeudi 8 et le vendredi 9. Voilà. Mmh. Hein, donc, puisque le 11 novembre est un dimanche. Voilà. Donc, il est un peu difficile de travailler dimanche, et puis il y aura les cérémonies de toute façon le dimanche.
Donc là, ce sera fermeture des archives pour accueillir les classes en journée.
Voilà.
Et le soir, ce sera ouvert au public.
Exactement.
Avec un spectacle.
Voilà, exactement. Avec un spectacle et une conférence. Alors, on ne sait pas encore si on fait le spectacle les deux soirs ou si on fait qu'un soir. Vous voyez, je pense qu'on sera plutôt sur un soir, puisqu'il y a aussi le problème de la conférence. Et, vous savez, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait les deux le même jour, vous voyez ? Est-ce qu'on fait la conférence et le spectacle, ou est-ce qu'on fait le jeudi, par exemple, la conférence, le vendredi, le spectacle ? Vous voyez, on est encore en train de réfléchir à ça, parce que c'est une conférence avec une historienne qui vient de Paris exprès, vous voyez, ça peut durer quand même une heure et demie, plus le spectacle qui dure une heure, vous voyez, ça peut faire une soirée un peu longue. Donc on est en train de réfléchir à notre à la chronologie précise des événements, mais c'est effectivement ça, c'est sûr, hein, vraiment, puisque on a vraiment pris des engagements, on a pris là on a eu les réponses il y a pas très longtemps, justement la semaine dernière en fait, en l'occurrence, hein, de Madame Vidal-Naquet. Quant à la compagnie, c'était déjà les contacts avaient été déjà formalisés bien avant, donc il y aura sans doute pas de problème, parce que la difficulté, c'est que tout le monde va être très sollicité, vous voyez, durant cette période, et Madame Vidal-Naquet nous disait, mais dites-le-moi vite, parce que évidemment je vais avoir des demandes. Enfin, c'est quand même une spécialiste de la guerre de 14-18. Évidemment, il va y avoir des demandes d'autres structures ou de radio, etc. Donc voilà. Donc là, ça c'est acté, ça sera. Voilà. Donc on est très content parce que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Vous voyez, sortir un petit peu de nos lectures d'archives habituelles, vous voyez, de nos conférences habituelles, de vraiment amener une spécialiste du sujet, et puis d'avoir un spectacle qui reprend vraiment les travaux de Clémentine Vidal. Il y a vraiment un lien entre les deux, quoi. Mm-hmm. Et donc là, qu'on ait les deux en même temps, c'est magnifique, quoi. Voilà. Donc on est très content et on est parti là-dessus. Voilà. Ça, c'est donc pour le point final, parce que après le 11 novembre, je pense que on laissera notre exposition évidemment jusqu'à la fermeture, mais l'intérêt va retomber, hein, c'est toujours le principe même des anniversaires, hein, c'est-à-dire que on arrive, alors il y aura beaucoup de choses au niveau national, d'ailleurs aussi le 11, mais après évidemment ça sera beaucoup plus calme. Alors ça c'est pour ce qu'on prépare, mais il y a aussi comment dire, on intervient aussi au profit des autres. C'est-à-dire que ça, c'est notre fait, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, mais on va aussi aider, évidemment, tous les projets des autres, puisqu'on est quand même une ressource importante d'un point de vue historique. Et donc, là, par exemple, on travaille sur trois écoles élémentaires sur le projet qui est un projet qui tous les ans qui s'appelle les petits artistes de la mémoire, qui est un projet donc qui est conduit par l'Office national des anciens combattants et qui a pour objectif de faire travailler une classe sur un poilu de la commune. Voilà, donc, et chaque année on intervient pour amener un peu d'histoire et un peu de contenu historique évidemment pour ces classes. Vous voyez, donc on a à la fois un travail d'organisateurs, mais aussi un travail évidemment aussi où on utilise nos services, hein, tout simplement, ce qui est quand même notre vocation première. Hein, donc voilà, donc il y a aussi ça, donc ce qui fait qu'on est, on sait qu'on va être beaucoup sollicité pour la guerre, hein, mais on est très content puisque voilà. On fera aussi une publication. Je suis en train de terminer le livre de 14-18. Alors, c'est toujours le chemin père de relecture. Donc, c'est un peu difficile. Hein, c'est pas très agréable, en fait, de relire ce qu'on a écrit. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'écrit pas très bien. Donc, il faut, enfin, en l'occurrence, que je n'écris pas très bien et qu'il faut reprendre sans arrêt, qu'il y a quelques répétitions, vous voyez, qu'il y a des notes de bas de page, vous savez, qui sont incomplètes ou des informations qui sont données qui ne sont pas référencées, c'est-à-dire qu'en fait on affirme, vous voyez, sans dire d'où on sort l'information, ce qui est d'un point de vue déontologique n'est pas très bien, vous voyez. Donc voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus. Le livre a été écrit, les images ont été choisies. Bon, il y a encore un gros travail arrière, hein, ça se fait pas. Il fait 600 000 caractères, donc 600 000 caractères, ça fait 250 pages, 300 pages avec les illustrations. Hein, donc ça, un travail important. Et donc, ça va nécessiter, là aussi, beaucoup de relecture par aussi des agents du service. Dans ces cas-là, vous savez, ces entreprises ne sont jamais individuelles. Il y aura des relectures qui vont être faites par l'Orfranec, en l'occurrence, mais aussi par un autre agent. Il y aura aussi donc un travail d'infographie qui sera fait par Jean-Marc Delaye, donc il va reprendre tout pour remettre tout en forme, et puis me dire là il y a une incohérence parce que ça correspond pas, l'image n'est pas bonne, ou celle-ci est déjà utilisée, parce que ça arrive aussi, quelquefois on se rend pas compte, mais je crois qu'il y a autour de 150 illustrations quand même, donc évidemment c'est un peu compliqué, voilà. Donc là je suis en train de reprendre il y a 4 chapitres, donc je reprends chapitre par chapitre pour travailler à la fois sur la relecture, et quand j'ai fini le chapitre, je reprends justement la question des illustrations. Mais c'était intéressant parce que j'ai fait ça, ça fait un mois que je travaille là-dessus. Alors évidemment, je ne partais pas de rien puisque j'avais déjà beaucoup écrit pour les expositions, hein, pour les petits journaux. Alors du coup, j'ai regroupé un peu toutes mes informations. J'ai pu aussi reprendre que je ne connaissais pas quand j'avais écrit ces petits journaux en 2014, 2015, 2016, et que j'ai découvert après, vous voyez. Donc voilà, c'est un travail vraiment. Je voulais pas le faire parce que je me disais, je vais pas encore repartir dans la guerre. Et puis finalement, c'est un travail tout à fait. C'est vraiment, pour moi en l'occurrence, c'est une façon de terminer les choses, vous voyez, d'une certaine manière, de dire voilà, maintenant je fais ça et après on passe à autre chose, voilà, parce que c'est.
Donc un travail que vous avez commencé quand?
Alors en fait, c'est un travail qu'on avait commencé en 2014, hein, mais l'écriture vraiment de l'ouvrage, j'ai commencé en fait en début décembre. Alors je ne fais pas que ça, hein, c'est un directeur d'archives, ça ne fait pas que écrire. Hein,
début décembre de
cette année, en fait, de 2017.
De 2017, ouais.
Oui. Mais j'avais beaucoup de choses écrites, hein, déjà. Hein, j'ai repris des éléments. La difficulté, c'était de. Vous savez, on faisait des expositions annuelles. Donc, chaque année, on reprenait des thématiques différentes. Et la difficulté, c'est que le copier-coller ne marchait pas, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre directement un morceau, vous voyez, de 1915 et le coller avec un morceau de 1916. Parce qu'évidemment, comme on faisait un découpage par année, il y a des choses qui se répétaient. Voilà. Donc. Alors, il y avait comme une base, hein, c'est-à-dire que les recherches étaient faites, ce qui est quand même ce qui prend le plus de temps, en fait. Hein. Écrire, c'est moins. Une fois qu'on a, toutes les recherches sont terminées, écrire est plus facile. Ouais. On aura du mal à finir le bilan aussi, hein, je crois. voilà. voilà. Et voilà. Donc, voilà. C'est pour vous dire vraiment qu'on est vraiment. Dans la fin d'un projet qui a quand même tenu pendant 4 ans, qui a. Pour terminer là-dessus, hein, qui nous a permis d'avoir une certaine visibilité. Hein, c'est-à-dire que même si les élèves ne sont pas toujours venus, vous voyez, pour notre projet 14-18 aux archives départementales, on sait que que ce projet, par sa médiatisation, par l'intérêt aussi qu'il présentait, parce qu'on a quand même travaillé beaucoup, on était plusieurs à travailler sur ce sujet, on s'est beaucoup investi dans ce domaine, on sait que ça a participé justement à cette augmentation de la fréquentation, même si la fréquentation ne s'est pas toujours dirigée vers le projet. Mais vous voyez, c'était vraiment, c'était presque... On pourrait dire d'un point de vue plus clair, notre produit d'appel, vous voyez, c'est un côté comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des classes qui sont venues pour ça au début et qui ont découvert autre chose aux archives départementales, hein, qui ont découvert entre autres le lieu, hein, qui est toujours une source d'étonnement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les archives départementales, parce que c'est un endroit tout à fait évidemment extraordinaire pour moi, mais très singulier, très, très, très différent de ce qu'on peut imaginer d'un service d'archives. Et puis, ça nous a permis aussi d'avoir, de faire quelque chose au long cours, ce qui est malheureusement de plus en plus difficile à faire. C'est-à-dire que souvent, on fait des expositions, vous voyez, ça dure 3 mois, puis après, on ferme l'exposition, puis on repart sur autre chose. Là, on a vraiment travaillé sur la durée. Et donc, on a pu faire un travail de fond, aussi bien sur la connaissance de la guerre que sur les outils qu'on met à disposition des personnes, vous voyez. Voilà. Et quand on regarde, quand je suis en train de faire les bilans, parce qu'on commence, on commence déjà à nous demander les bilans pédagogiques, mais aussi archivistiques de ces 4 ans, je m'aperçois qu'on a fait, en fait... une foultitude de choses, et je me dis vraiment que les agents des archives ont beaucoup travaillé sur ce projet.
On va s'arrêter là, Jean-Christophe Labadie. 3 quarts d'heure tout rond pour vous.
Voilà, très bien. Écoutez, voilà.
On n'aura pas le temps de faire de pause musicale, mais c'est pas grave.
C'est
toujours intéressant. Voilà. On se retrouve dans un mois, le 3e jeudi du mois. Merci.
Et merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.